Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Et nous sommes donc avec Christophe pour cette agression et ces images qui sont absolument effrayantes. Le jeune Youri va mieux. Visiblement, sa mère a donné ce matin des nouvelles rassurantes. Il a 15 ans. Christophe, vous êtes dans le sud-est ?
Oui, tout à fait, Pascal.
Donc vous êtes policier. Quand vous dites ça arrive régulièrement, c'est-à-dire que on est aujourd'hui le 25 ou 26 janvier, depuis le 1er janvier dans le sud-est, vous avez un cas de ce type d'un jeune homme ou d'une personne qui aurait été massacrée par une bande ?
C'est pas forcément le même cas d'un jeune homme massacré par ses bandes, mais des phénomènes de violence en groupe, il y en a énormément. Ce week-end, je vous fais juste un petit rappel, ce week-end, affrontement à Ris-Orangis, interpellation de 36 individus pour tentative d'homicide et affrontement entre bandes. À Nantes, un commando de 10 personnes qui investit l'hôpital la nuit de jeudi à vendredi pour libérer un individu qui avait été interpellé par les collègues suite à des violences. Donc ils sont venus le rechercher à une dizaine en frappant les collègues. Voilà, idées comme ça, il y en a quasiment tous les jours. Alors certaines sont plus choquantes que d'autres. Ce jeune homme de 16 ans qui est passé à tabac, qui est laissé quasiment pour mort sur une dalle de béton, ça choque parce que les images, elles sont vues par tout le monde. Donc effectivement, ça choque. Mais c'est malheureusement quelque chose qui arrive fréquemment.
Mais Alain Bauer, qui est criminologue et qui est un expert de ces questions-là, disait tout à l'heure au micro de Christelle Robière, au fond, il n'y a rien de changé. Ce qui change, c'est que c'est plus visible aujourd'hui parce qu'il y a des vidéos.
Ah mais c'est exact. Je pense que si on faisait une analyse statistique pure de ces phénomènes de violence, on nous dirait que ces violences, elles diminuent même peut-être par rapport aux années précédentes, il y a 20 ou 30 ans. On a peut-être moins de personnes mortes de ces violences. Mais effectivement, par contre, on a une information en continu. Depuis l'agression de ce jeune homme, on le voit en boucle tous les jours, effectivement. Les réseaux sociaux en parlent partout. Donc, toutes ces violences dont on n'entendait pas parler il y a peut-être une vingtaine d'années, elles tournent en boucle tous les jours sur les ondes, sur les écrans. Donc, effectivement, ça donne cette impression, qui n'est pas qu'une impression d'ailleurs, mais oui, effectivement, qu'on est entouré
c'est-à-dire
par la violence.
C'est-à-dire qu'il y a moins d'agressions parfois, mais elles sont plus violentes.
Elles sont extrêmement violentes parce qu'on bande et on voit qu'il y a ces jeunes, ils sont totalement désinhibés sur la violence parce que quand vous êtes à une dizaine sur un jeune homme
c'est
au sol sans défense, vous savez de toute façon que le résultat va être terrible. Donc, il n'y a aucune peur de leur part et il n'y a aucune retenue. Ça, c'est ce qui est très inquiétant d'ailleurs.
Et vous, sur le terrain, est-ce que vous sentez un rajeunissement de ces bandes parfois et de ce type d'agresseurs ?
C'est très jeune. On est entre des bandes, des jeunes qui ont entre 13, 15 et 16 ans. Vous avez très peu de gens de 20, 25 ans dans ces bandes-là. On a des gamins qui ont entre 13 et 16 ans dans les bandes, par groupe de 10. Donc effectivement, quand vous êtes un groupe de 10, vous êtes une meute. Donc quand vous tombez sur un jeune homme qui est tout seul ou une jeune fille, parce que le distinguo ne se fait même plus maintenant, on a eu les images cet été de jeunes filles qui étaient frappées par des bandes de garçons, ou par des bandes de filles d'ailleurs. Voilà, il n'y a aucune limite, il n'y a plus aucune limite. Et on a une réponse judiciaire qui est souvent très compliquée, du fait du jeune âge aussi. Donc ça, c'est effectivement extrêmement inquiétant.
Merci Christophe, si j'ose dire, de ce constat, parce que effectivement, il est inquiétant. Vous pouvez peut-être rester avec nous. Thierry est là également. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Vous n'êtes plus en France aujourd'hui, Thierry. Vous avez quitté la France.
Exactement. Je suis à Cotonou, au Bénin.
Et vous nous appelez de Cotonou en ce moment.
Exactement.
Et vous avez quitté la France à cause précisément de ces violences.
Entre autres, oui. J'en avais marre, en fait, du manque de confort de vie, de l'insécurité. Ce mal-être, en fait, je trouve qu'il y a maintenant en France, où on ne peut plus, je trouve, se promener tranquillement, en pleine sécurité. Voilà. Je trouve que c'est plus la France que j'ai connue, malheureusement, quand j'étais plus jeune. Et il y a aujourd'hui, je trouve, un déferlement de violence qui est hallucinant, d'agressivité, de méchanceté, je trouve.
Et vous trouvez qu'au Bénin, à Cotonou, c'est différent. Vous êtes arrivé quand au Bénin ?
On va dire il y a 3 ans. Et je trouve qu'en fait, le Bénin, c'est la France des années 60. C'est-à-dire tout le monde se dit bonjour, il y a une courtoisie, on peut être en terrasse, les gens vont discuter. C'est la France des années 60. C'est-à-dire il y a un bon vivre, il y a une tranquillité, il y a très très peu d'agressions. Ça arrive bien sûr, évidemment, mais il y en a beaucoup moins. Il n'y a aucun sentiment d'insécurité si on fait attention, bien sûr.
Bah, écoutez, vous donnez à tout le monde envie d'aller au Bénin, mais pourquoi vous êtes parti là-bas? Vous aviez dans quelles conditions plus exactement vous êtes parti là-bas? Vous avez pu travailler?
Bah, en fait, j'ai travaillé pendant 20 ans en tant qu'animateur et j'avais peur d'être un peu has-been à l'approche de mes 50 ans. Et puis j'avais envie en fait de passer à autre chose. J'avais l'impression d'être esclave de ma vie. Et du coup, je me suis dit, allez, on y va. Donc j'ai vendu mon appartement et puis j'ai pris le risque de monter un restaurant, bientôt un deuxième, et voilà. Et au moins, je vis ma vie.
Le Bénin est une république multipartie, à régime présidentiel, où le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement, et le pouvoir exécutif Exactement. Est aux mains du gouvernement, tandis que le pouvoir législatif est partagé entre le gouvernement et le Parlement.
Exactement.
Bon, bah écoutez, s'il fait bon vivre au Bénin, on peut pas tous aller au Bénin, mais vous n'êtes pas revenu en France depuis combien de temps ?
Je suis rentré au mois d'août, en France, le 15 août.
Où ça ?
À Paris.
Oui, et vous étiez à Paris, hein, vous-même, vous étiez parisien.
Voilà, j'étais en Ile-de-France.
On peut quand même se balader en Paris sans être agressé, hein, disons-le.
Non, honnêtement, moi, j'ai vu, c'est ce que j'ai écouté avec votre ancien auditeur, qui disait, une meute de chiens, ça m'est arrivé, par exemple, en sortant d'une animation à 50 ans living, de vivre une agression entre deux bandes rivales. Et c'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire que c'est une dizaine d'individus qui sortent des bouteilles de leurs survêtements qui se jettent sur quelqu'un comme une meute de chiens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de cerveau, il n'y a plus rien. On est à l'état animal. Et franchement, ça fait peur. Ça fait très, très peur. Il y a une agressivité qui est gratuite, je trouve, en France. C'est-à-dire que parfois, on va prendre le RER, le métro, on ne sent pas forcément en sécurité dans certains quartiers, franchement.
Bon, je retiens que vous dites le Bénin, c'est la France des années 60. J'espère que c'est plus les années 60 que mes 68, bien évidemment. Mais c'est intéressant, pourquoi pas, d'aller faire un tour au Bénin. Thierry, vous nous avez donné envie, d'une certaine manière, d'aller visiter. Je ne sais pas, Grégory, si vous êtes déjà allé au Bénin, ce qui n'est pas mon cas.
Non, je n'y suis jamais allé, mais la France des années 60, ça vous donne envie d'aller au Bénin, forcément, Pascal, vous, non ?
Je vous remercie, vous êtes aimable dès ce lundi. D'ailleurs, c'est lundi.
Oui.
Il n'y a pas une petite chanson pour c'est lundi ? Je pensais qu'on allait écouter une petite chanson, mais on l'écoutera tout à l'heure. Une page de pub, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et à 13h11, Laurent Tessier est avec nous.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Notre société est-elle de plus en plus violente? Un adolescent de 15 ans, Youri, passé à tabac le 15 janvier à Paris, dans le quartier Beaugrenelle. Une dizaine de jeunes qui s'acharnent sur lui à coups de pied et de batte ou bâton. Comment en est-on arrivé à cette ultra-violence des jeunes? Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, était l'invité d'Alban Ventura ce matin sur RTL.
Un sentiment d'horreur, de barbarie. En août dernier, je dénonçais le climat d'une France orange mécanique avec cette violence gratuite. On ne peut pas voir régulièrement de telles tragédies. Vous savez quoi ? Il faut qu'on reprenne le contrôle. Le contrôle de notre sécurité.
Réaction de Marie sur la page Facebook RTL. Les auditeurs ont la parole. Nous ne sommes plus en sécurité. Honte à ces délinquants, honte à leurs parents. Il faut agir et vite. La justice ne suit pas, rajoute Christine. Donnons plus de moyens aux forces de l'ordre, écrit Damien. Notre société va mal, déplore Véronique. On s'en prend à une personne aujourd'hui pour un téléphone, un regard. Oui, je ne me sens pas en sécurité. Je ne vais quasiment plus en centre-ville. Isabelle parle d'une jeunesse sans repère, l'abandon parfois des parents. Plus de respect aussi des soignants, des pompiers, des policiers, notre France, hein, qui subissent cette violence. Et les réseaux sociaux ont leur responsabilité pour tirer. Tout va plus vite et ce sentiment d'impunité ne fait qu'augmenter.
Sauf Laurent, entendons ceux qui savent de quoi ils parlent, ce qui est le cas d'Alain Bauer, qui dit que la violence est moins grande aujourd'hui, simplement elle est plus visible. Ce qui a changé dans nos sociétés, c'est ce que je tiens là dans la main, ça s'appelle un téléphone portable et tout le monde peut filmer les agressions. Or, à la fin du 19e siècle, vous sortiez dans les rues de Paris, vous pouviez vous faire tuer, mais effectivement ce n'était pas filmé. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre les choses en perspective. Raphaël est là, bonjour, qui est prof de droit. Il va être là dans une seconde, Raphaël. Alors Geoffrey, peut-être, qui est à Valenciennes. Oui, bonjour.
Bonjour Pascal. Écoutez, merci de me donner la parole.
Je vous en prie.
Oui, effectivement, cette violence, alors moi ça fait 22 ans que je suis dans le métier de pompier, cette violence elle a toujours existé, sauf qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus aiguë que ce qu'on a pu vivre, ce que j'ai pu vivre il y a une vingtaine d'années. Alors est-ce que la télévision, est-ce que les jeux vidéo
amène une violence supplémentaire, je pense, mais ça c'est mon avis personnel. Mais après, ce que je pense aussi, c'est qu'on a un véritable laxisme au niveau de la justice. Et je vais vous donner un exemple très très concret. On a eu là un retour il n'y a pas longtemps. On a deux collègues, policiers, qui se sont fait agresser, qui sont même fait lyncher, il n'y a pas d'autre mot, à Valenciennes. On a M. Darmanin qui est venu leur mettre une médaille, des promesses. Et là, on vient juste d'apprendre que les personnes qui les avaient lynchées, donc c'était une quinzaine, hein, aucun d'entre eux n'ont eu une peine. Ils ont eu un rappel à l'ordre, ils ont eu des peines avec sursis, et pour les autres, ils ont été relaxés. Donc comment voulez que ces jeunes, en fait, puissent se dire « non, si je fais ça, je risque quelque chose ». Aujourd'hui, ces jeunes qui font ce genre d'action, ils ne risquent rien derrière. Alors derrière, on a une communication du gouvernement, on a un laxisme de la justice, et tout ça, ça devient inacceptable et ça fait peur.
Alors Geoffrey, ça c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que faut être précis. L'agression dont vous parlez, elle s'est produite quand ?
Pour les policiers, c'est à peu près il y a un mois.
Un mois. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'en un mois déjà, la justice aurait fait son travail ?
Ah bah écoutez, c'était en grande page dans un quotidien chez nous. Relaxation, pas de peine pour les personnes interpellées suite à l'agression.
Mais parce que on n'a pas apporté des preuves, et c'est ça qui est peut-être difficile dans ce type de dossier. On voit bien ces jeunes gens, ils sont cagoulés, masqués, et une fois qu'on va savoir leur nom, et visiblement les enquêteurs, c'était en tout cas des bruits qui filtraient, les enquêteurs savent qui sont ces jeunes gens. Ils savent quelle est cette bande. Simplement, dans un état de droit, et c'est toute la difficulté, il faut apporter la preuve qu'eux-mêmes étaient bien là, bien présents, alors qu'ils sont masqués, vous voyez ?
Enfin, les jeunes qui ont agressé les deux policiers, ça a été filmé, leur visage a été découvert.
Donc mais oui, mais c'est pour ça que vous m'étonnez. Je n'imagine pas, pour tout vous dire, les policiers étaient dans quel état à l'issue de cette agression ?
Comment ? Excusez-moi, Pascal.
Les deux policiers étaient dans quel état à l'issue de cette agression ?
Ah ben, c'est simple. Les jeunes, ils ont pris les papiers dans les véhicules des policiers, donc ils connaissaient leur adresse. J'ai deux policiers qui étaient en arrêt chez eux et qui avaient peur pour eux et pour leur famille parce que les agresseurs connaissaient leur adresse. Et j'ai deux policiers qui avaient qu'une envie, c'est de pouvoir avoir leur arme de service et leur gazeuse chez eux pour pouvoir défendre leur famille. Voilà où on en était. Et ces mêmes personnes aujourd'hui, ces mêmes agresseurs, aujourd'hui, ils sont tranquillement dans les rues.
Non, mais j'entends bien, mais dans quel état ils étaient, ces policiers ? Ils ont été, physiquement frappés ?
Ah bah oui, physiquement, ils étaient au sol. Ils se sont fait lyncher.
Oui, c'est pour ça que je voudrais vraiment... Je suis tellement étonné de ce que vous me racontez, je le dis aussi à Laurent Tessier, je voudrais vraiment qu'on puisse vérifier cette affaire. Donc, vous dites, avec deux policiers à Valenciennes, hein, dites-vous, deux policiers frappés à Valenciennes avec, effectivement, des agresseurs qui auraient été relaxés et non poursuivis.
Et ce qui nous énerve encore plus, c'est qu'à chaque fois, on leur trouve des circonstances atténuantes. Et pour le peu qu'ils ont des peines, c'est des gens qui vont les faire de la prison là, auprès de la princesse. Voyez Et ça énerve la majorité des Français.
Je suis d'accord avec vous, mais comme je me méfie toujours de cette mise en perspective un poil caricaturale, pardonnez-moi, Geoffrey. Hein, parce
non, mais là,
que
c'est quelque chose que j'ai vécu.
Oui, mais c'est pour ça que... alors là, je ne vous fais aucun procès,
plus,
mais je...
Je peux même vous dire, d'autant plus que les deux dans les deux policiers, on a l'un des deux qui est un ami proche. Donc, ce que je vous dis, ce sont des bases de faits réels.
Mais j'entends bien, mais je voudrais savoir pourquoi. Est-ce qu'ils ont été relaxés parce que les personnes qui sont passées, par exemple, ça doit être de la comparution immédiate, en plus, si c'était il y a un mois, est-ce qu'il n'y avait pas de preuves ? C'est ça qui m'intéresse. Mais on va essayer de fouiller d'ici la fin de l'émission.
Les vidéos ont tourné sur les réseaux
sociaux. Oui, c'est pour. Mais j'entends bien. J'entends bien.
Filmé par ces mêmes jeunes de la même cité.
Eh ben, écoutez, Geoffrey, vous allez rester avec nous, tiens, Geoffrey. On va marquer une pause et on va essayer. On va aller auprès de. Nous, on fait de la télé. On fait. Ben oui, d'ailleurs, on fait de la télé puisqu'on est en vidéo. Mais on fait aussi de la radio en direct. Donc moi, je propose d'aller voir le service police justice d'RTL. Il est 13h18. Je le dis à Laurent Tessier. Et on va pouvoir essayer de creuser cette affaire. Et si on le fait pas aujourd'hui, on le fera. On aura les réponses demain. On va faire comme Julien Courbet, désormais.
Vous faites beaucoup comme Julien Courbet en ce moment, je trouve. Hein.
Il a beaucoup de talent, Julien Courbet, donc on peut s'en inspirer, pourquoi pas. Est-ce qu'on a une petite chanson en ce lundi, cher ami ?
Bien sûr.
Parce que l'actualité est grave, donc qu'est-ce que vous me proposez ?
Ben alors, je vous propose une chanson qui s'intitule « C'est lundi ».
Abonnez-vous au Passe Uber Eats et
on la verra après la pub, alors, peut-être. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Geoffrey qui nous appelle de Valenciennes. Nous sommes d'accord, Geoffrey, que vous parlez de l'agression qui a eu lieu le dimanche 13 décembre de deux policiers lors d'une intervention dans un quartier de Marly, près de Valenciennes. Exactement. La scène avait été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. 8 Exactement. Personnes avaient été interpellées. Nous sommes d'accord. Et on vous nous d'accord. dites que ces 8 personnes ont été interpellées. Finalement, il n'y a rien eu. Elles n'ont pas été ni condamnées.
De la relax, alors je viens juste de relire le titre du journal, de la relax aux peines avec sursis. Voilà.
Donc le procès a été renvoyé effectivement au 22 janvier, manifestement, oui. puisque 5 jours après l'agression des deux policiers à Valenciennes par une dizaine d'individus, le policier s'était rendu au vendredi dernier au tribunal de Valenciennes, où devait se tenir le procès de deux de leurs agresseurs présumés. Donc, sur les 8, il n'y en avait plus que deux agresseurs qui avaient été retenus, sans doute il y avait faute de preuves pour les 6 autres personnes qui avaient été interpellées, j'imagine.
Oui.
Bon, et ces deux agresseurs qu'ont-ils eu aujourd'hui?
Ah ben, de la relax.
La relax. Les deux ont été relax.
Il y en a un des deux, je crois qu'il y a une peine de 800 euros. Voilà.
Bon, ben, écoutez, ça, c'est un cas concret, effectivement. Alors, moi, je voudrais maintenant savoir pourquoi.
Du coup, je voulais juste revenir, sur le cas de Yuri.
Oui.
Ces jeunes-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur trouver des circonstances atténuantes. Oui, mais ils ont une enfance difficile, ils vivent dans un milieu difficile. Mais vous savez, quand on est prêt à tuer quelqu'un comme ça, quand on trucide quelqu'un, quand on lynche comme ça, on tue pas une personne. On tue toute une famille, on tue un cercle familial. Ça ne touche pas qu'une seule personne. Vous imaginez ces gens-là, quand ils vont, si le petit Yuri était décédé, c'est toute une bulle autour de cet enfant-là qu'on aurait tué. Enfin, c'est très compliqué à vivre par la suite, parce que là, on voit juste là qu'on voit la personne, mais tous les dommages collatéraux qu'il y a à côté de ça, psychologiques pour les gens qui sont autour, mais c'est difficile. La vie s'arrête pour tout le monde. Aujourd'hui, on laisse faire. Alors on laisse faire, c'est un bien gros mot quand on laisse faire. On trouve toujours des circonstances atténuantes.
Ce qui m'ennuie, Geoffrey, c'est que, je vais vous dire, et je comprends, et je ne vous en veux pas d'ailleurs, mais en même temps, et je le dis pour les auditeurs, moi je prends en direct les auditeurs. L'émission, elle n'est pas préparée de ce point
oui,
de vue.
Je sais.
Mais je vérifie ce que vous dites. Et en fait, vendredi 22 janvier a eu lieu le jugement. En fait, c'est 4 agresseurs présumés des policiers de Marly. Ces agents qui étaient intervenus dans le quartier dit de la Briquette le 13 décembre dernier. 4 hommes de 18 à 24 ans ont été condamnés de 6 mois de prison ferme pour incitation à la rébellion, pour la peine la plus sévère, à 9 mois de prison avec sursis. Donc pardonnez-moi Geoffrey, mais c'est pas exact ce que vous disiez. Il n'y a pas de la relax parce qu'il y a une peine de 6 mois de prison ferme. Après on peut juger, ce qu'a jugé les syndicats, des peines qualifiées de légères pour des faits assez sérieux, a commenté Arnaud Boutelier, le secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police
Alors,
Nationale.
Alors moi j'ai autre chose, on est sur un autre quotidien qui datait du 22 janvier, hein. On a affaire de la Briquette, il y a une relaxe.
Oui, mais alors, je vous répète, il y avait 4 hommes qui ont été jugés et 6 mois de prison ferme. Donc moi, je suis obligé, si j'ose dire, de faire en direct cette vérification. Elle est importante, même si on peut considérer, je le répète, que les 6 mois, et je vais interroger Philippe Boujon d'ailleurs, qui est maire du 15e arrondissement de Paris, on peut considérer que ces peines ne sont pas assez sérieuses. Et pour tout vous dire, je m'étonne que des policiers agressés en France, il y a un mois ou deux mois, dans le contexte d'aujourd'hui, effectivement, 6 mois de prison ferme.
C'est complètement dingue.
Ça me paraît, même s'il ne faut jamais commenter, paraît-il, une décision de justice, mais je vais prendre des précautions oratoires, ça peut paraître étonnant. Merci en tout cas, Geoffrey. Merci, merci de votre témoignage et pardonnez-moi de cette vérification en direct. Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement. Beaugrenelle, c'est dans votre arrondissement.
Absolument. Dans le 15e, c'est le secteur des tours du fond de Seine, que chacun connaît.
Ça s'est passé à quelle heure ?
Ça s'est passé vendredi, il y a une semaine, à 18h30, juste avant le couvre-feu, puisque le couvre-feu est arrivé à 20h.
Donc quasiment en pleine journée, en fin d'après-midi.
Oui, il faisait nuit.
Voilà, il faisait nuit, mais bon. Et il n'y a pas de policiers sur la dalle de Beaugrenelle ?
Si, bien sûr, il y a des patrouilles de police, d'autant plus que depuis un certain temps, depuis quelques années, nous avons
des regroupements de jeunes, évidemment, il ne s'agit pas de cela. Là, on parle d'assassins, c'est totalement différent. Mais des regroupements de jeunes, de petites bandes qui, effectivement, se livrent à un certain nombre de désordres publics, de petits trafics, voire de temps en temps des agressions. Et nous sommes très, très vigilants, bien sûr. On multiplie les patrouilles de police. Je demande aussi une police municipale armée, bien sûr, en complément de l'action des forces de police. La ville de Paris va mettre en place une police municipale. Ces agents de surveillance, qui ne sont pas encore policiers municipaux, d'ailleurs, ont renforcé leur patrouille également sur la dalle. Et nous avons les caméras qui ont pris des images que malheureusement on connaît et qui sont des caméras que j'ai fait installer il y a maintenant 5 ou 6 ans en raison justement du développement d'une certaine délinquance sur cette dalle.
Mais ça vous a étonné, par exemple, cette agression, ou ça fait partie du quotidien du maire du 15e arrondissement que vous êtes ?
Non. Bien sûr, vous savez, le 15e, c'est le plus gros arrondissement de Paris, près de 250 000 habitants, plus grand que Bordeaux. Donc, bien sûr qu'il y a des agressions, mais ça, c'est sans précédent. Nous n'avons jamais eu ce genre d'actes de barbarie, d'une sauvagerie inouïe, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, dont j'ai contacté le cabinet d'ailleurs il y a quelques jours, mais c'est sans précédent, bien sûr. Non, il y a effectivement quelques rassemblements de jeunes, des bandes, mais qui se livrent, comme partout en France malheureusement, à des trafics. Ce qui est étonnant justement et inquiétant, c'est l'aggravation de la violence de la part de ces bandes, puisque c'est vrai que des conflits qui pouvaient se régler à coups de poing ou d'invectives ou d'injures autrefois, maintenant, entre jeunes, se règle à coups de bête de baseball ou de marteau. C'est ça le sujet.
En même temps, cette période-là, elle est particulière, je le disais tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, tout est filmé. Donc, effectivement, avant, il pouvait exister de la violence, mais on la voyait moins, forcément. Philippe Goujon, vous avez eu la mère de Yuri au téléphone ?
Oui, bien sûr, je l'ai eu. Deux jours après l'agression de son fils, une femme très courageuse qui essaye de faire de la lumière sur cette affaire. C'est encore un peu flou, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas surtout les motifs des agissements de cette bande qui vient devant, de la banlieue parisienne, et qui s'est retrouvée sur la dalle du Fonds de Seine, qui est un quartier assez tranquille. Même s'il y a là aussi, sur la dalle, comme je le disais, une petite bande que nous essayons de contrôler d'ailleurs.
Vous savez qu'ils sont d'ailleurs, parce que je disais tout à l'heure que les enquêteurs disent au fond, on sait qui c'est, mais on n'a pas forcément la preuve. C'est exact ça ?
Je pense qu'il y a quand même eu pas mal d'indices. Les caméras déjà qui ont filmé pendant longtemps. C'est ça. D'ailleurs, ces caméras, moi je suis un peu à l'initiative de ce camp d'hydroprotection à Paris il y a quelques années. Et donc, en dehors de celles qui ont filmé ces agissements sur la dalle, il y a des caméras dans la ville, on en a plus d'une centaine évidemment dans l'arrondissement, qui ont permis de suivre aussi les délinquants, enfin les criminels, et donc d'avoir d'autres images où on peut peut-être mieux identifier les uns et les autres. Et puis il y a des indices, et puis il y a aussi les camarades de Yuri, un certain nombre de témoins qui sont entendus par le 3e district de police judiciaire. Mais pour revenir à notre... à votre débat précédent, je dois dire que je suis un peu déçu que la justice ne suive pas. Voilà.
C'est ce dont on va parler dans quelques instants. Merci Monsieur Goujon, mais effectivement, ce jugement de vendredi est très intéressant puisque il met en perspective, derrière une agression de policier, que la réponse pénale, et c'est souvent un reproche qui est fait à cette réponse pénale de ne pas être suffisamment forte. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
13h32, Laurent Tessier.
Faut-il reconfiner le pays dès cette semaine ? Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, a pris la parole hier chez nos confrères de BFM.
Il faut bien que les Français comprennent que les mutants et les variants anglais, sud-africains, brésiliens, maintenant californiens, changent complètement la donne depuis 3 semaines.
Le reconfinement est-il inévitable ? L'infectiologue Karine Lacombe était l'invitée du grand jury sur RTL avec Benjamin Sportouche.
Certains membres du gouvernement considèrent qu'on peut attendre. Nous, scientifiques, considérons qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre parce qu'il est toujours beaucoup plus efficace d'être en préventif que de mettre en place un confinement alors qu'on est déjà au bord de craquer.
Chef d'entreprise, salarié, quelles sont vos inquiétudes ? Redoutez-vous cette annonce ? Commerçant, ce serait pour vous le reconfinement de trop ? Le hashtag « Je ne me confinerai pas » monte depuis ce week-end sur le réseau social Twitter. Le pensez-vous? Acceptez-vous l'idée d'un troisième confinement? Pas question pour vous de revivre ce scénario. Et bien, nous attendons vos appels dès maintenant au 32-10.
Et je disais tout à l'heure que Jean Castex avait annoncé pourquoi pas des décisions. Précisément, voici ce qu'il a dit. Des décisions seront prises cette semaine. La phrase a été prononcée par Jean Castex en petit comité devant des agents de l'ARS d'Île-de-France. Hors caméra, hors micro, et lors de cette séquence, le poulet était tenu à distance. Et je remercie Ludovic van de Kerckhoff qui me fait passer à l'instant cette information. Nous poursuivons avec Youri. Ça a choqué évidemment tout le week-end. On a eu ces images qui sont effrayantes. Je remercie Monsieur Goujon. Monsieur Goujon, oui, est maire du 15e arrondissement. Merci. Oui. On espère évidemment. J'ai entendu la maman de Youri ce matin. A priori, il irait mieux. Il est à Necker, hein, je crois, à l'hôpital Necker. Mais on ne peut avoir que de la compassion et de l'empathie pour cette maman qui témoigne d'ailleurs avec beaucoup de courage, beaucoup de lucidité.
C'est bien sûr, qui veut faire la lumière sur cette affaire, pour savoir ce qui s'est passé. Et nous aussi, bien sûr, de façon à pouvoir interpeller les auteurs, espérer qu'ils seront condamnés sévèrement et que les assises, puisqu'ils relèvent des assises, prononceront des peines de prison très longues, voire interminables.
Mais s'ils ont 13 ans, 14 ans, 15 ans?
Il semblerait que ça soit peut-être un peu plus âgé, ceux-là.
Ah. Ils sont majeurs?
Écoutez, il y a un rassemblement de plusieurs jeunes, mais il semblerait de toute façon qu'ils soient plus âgés que les collégiens qui accompagnaient Youri et lui-même.
D'accord. Ben, merci, Monsieur Goujon. Vraiment, merci beaucoup d'être intervenu au micro d'RTL. Raphaël est là, qui est professeur de droit dans le Puy de Dôme. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Pascal.
Vous souhaitiez témoigner?
Ben, témoigner, moi, je rebondirai un peu sur ce qu'a dit le pompier tout à l'heure. Le gros problème dans cette affaire, qui est odieuse évidemment, et le phénomène des bandes n'est pas nouveau, contrairement à ce qu'on veut nous dire, ça fait quand même des années que ça existe, hein. Mais c'est de dire que les policiers vont faire le job, la réponse policière va être là, mais la réponse judiciaire va traîner, c'est une évidence. Parce que on a une discordance en France de plus en plus grande entre le travail policier efficace de terrain, avec ses qualités, ses défauts, mais qui va, j'allais dire, trouver les fautifs, hein, dans 60% des cas, je crois, dans les enquêtes policières, 70, hein, et la réponse judiciaire, dont on voit très bien qu'elle n'est pas toujours là, ou qu'elle n'est pas proportionnée. Alors, j'allais dire, on dirait pas que ces deux institutions font le même travail, sont au service, j'allais dire, des citoyens. Et j'ai pu moi-même exercer les fonctions judiciaires il y a une dizaine d'années de ça. J'ai constaté moi-même que parfois, il y avait une légèreté dans la réponse apportée. C'était au niveau correctionnel, moi qui me consternait. Une légèreté parce qu'on avait l'impression que ce dossier n'était pas si grave que ça. Ah ben qu'il y avait des circonstances, son papa buvait, sa maman faisait le trottoir, des choses comme ça. Donc moi je veux bien toutes les circonstances qu'on veut. Elie Wiesel et d'autres ont passé des moments horribles dans des camps de concentration. Ils sont pas devenus des délinquants. Donc j'allais dire que c'est pas parce qu'on a des conditions sociales difficiles qu'on est obligé de devenir un délinquant. Faut arrêter ce discours aussi.
Non mais c'est vrai, là où vous avez raison, c'est qu'il y a un climat anti-prison. Je crois que c'est Christiane Taubira, même ministre de la Justice, qui disait jadis que la prison n'était pas une bonne réponse. Donc effectivement, si on dit ça, c'est compliqué. C'est toujours un rapport sur la société. C'est des discussions qui sont très très complexes parce que évidemment, ces jeunes gens ont 13 ans, 14 ans, 15 ans parfois. Je sais pas ce qu'il faut faire pour tout
surtout
vous dire.
La bande, c'est un mode d'expression parce que la bande, c'est devenu une famille. Il n'est plus vraiment de famille. La bande est devenue la nouvelle famille. On se partage un territoire. On va chercher des crosses à celui d'en face, etc., etc.
Paris, non, mais ça a toujours existé.
Mais bien sûr, mais je suis content d'entendre dire. On dirait qu'on découvre que la Terre est ronde, la bande à Bonneau, machin. C'était des choses qui existaient. Qu'on arrête de nous dire également qu'on a importé ça des États-Unis. C'est pas vrai. On a presque connu les bandes avant eux. Mais là, ça prend par contre des proportions. C'est de pire en pire. Et la réponse policière est là. La réponse judiciaire n'est pas là comme il faut.
Faudrait des le problème de ces discussions, faudrait des statistiques, Raphaël, pour étayer.
Elles doivent bien exister. Faudrait, le ministère de l'Intérieur doit avoir ça.
Oui, mais faudrait des statistiques. Moi, j'ai le sentiment, en tout cas, j'entends dire que les magistrats sont plutôt sévères en France, que lorsque vous arrivez, on l'a vu notamment avec les crises des Gilets jaunes, où parfois les peines ont été prononcées assez sévères. Et c'était ça qui était frappant même dans cette séquence, et chacun le notait. Mais il faudrait des statistiques.
C'est de la réaction. Les magistrats vont réagir sur le champ à quelques affaires, et après, sur le moyen terme et le long terme, on va retomber dans un espèce de petit train-train qui fait qu'on vous jugera dans 2 mois, ce qui fait qu'en 2 mois, vous êtes
de partir.
Bah, en deux mois, ça va encore, parce que parfois, c'est deux ans plus tard.
Et oui, et puis, mais non, celui qu'on laisse dehors, on le rappellera dans deux mois pour être jugé. Pendant ce temps, il a le temps de partir. On vous fait un petit rappel à la loi. Ne remettez plus le doigt dans le pot de confiture, sinon on va se fâcher. Tout ça, c'est complètement, à mon avis, la réponse judiciaire est encore en, même si
j'entends
c'est vrai,
ce que vous dites, mais il faudrait que ce soit étayé par des statistiques, ce que vous dites, et que ce ne soit pas des phrases, pardonnez-moi de le dire comme ça, au doigt mouillé, si j'ose dire, Raphaël. Et c'est vrai que c'est pour ça que je ne les ai pas sous les yeux, ces statistiques, et puis c'est compliqué, évidemment, de les mettre en place. Est-ce que vous avez retrouvé, Greg Karanoni, la chanson que vous nous annonciez tout à l'heure et qui, visiblement, est une chanson adaptée à ce lundi?
Oui. Alors, pas pour nous.
C'est lundi.
Dans mon lit.
C'est lundi.
Dans
c'est
mon
Jesse
lit.
Jesse Garon.
Exactement.
C'est lundi dans mon lit. Mal au cœur. C'est parce que, vous savez pourquoi j'ai proposé cette chanson?
Non, dites-moi.
Parce que tout à l'heure, Laurent Tessier chantait ça dans les couloirs. Il disait.
Mon café.
C'est lundi. Dans mon lit. C'est une vieille chanson, ça, Jesse Garon. Vous avez connu Jesse Garon?
Non, pas du tout.
Non. Je sais, je me demande ce que vous avez connu sur le plan musical.
Bah, en fait, je me demande si vous connaissez autre chose de ce qui est dans les années 60-70, moi.
Ah non, et ça, c'est 80, ça, 80. Jesse Garon, tu rigoles.
Je naissais.
Vous naissiez?
Oui.
J'en suis fort aise. Eh bien, lancez la pub maintenant.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier, là.
Une recommandation qui ne manque pas de faire du bruit.
Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Oui, en clair, taisez-vous. L'Académie nationale de médecine recommande d'éviter de parler et de téléphoner dans les transports en commun, même masqué, Pascal. Attention, hein. Une recommandation afin d'éviter la propagation du coronavirus et en particulier des nouveaux variants. Allez-vous le faire? Allez-vous vous taire? Nous attendons vos appels au standard.
Non, mais... Vous êtes à vous aller dans le métro parfois?
Oui.
Vous avez vu des... Bon, c'est pas l'endroit où les débats quand même sont les plus vifs. Moi, j'ai l'impression que tout le monde fait la tête. Regarde, généralement vous êtes seul dans le métro. Oui. Dans beaucoup de cas, vous voyagez seul. Vous lisez votre journal ou vous lisez un livre.
Plutôt les téléphones portables.
Oui, voilà.
Plutôt un téléphone portable, si vous voulez. Mais il est rare qu'une discussion animée. Alors de temps en temps, il y a toujours des gens qui viennent chanter dans le métro.
Exactement.
Et ça, effectivement, bon, mais c'est pas l'endroit où on parle le plus. Mais vous pourrez réagir néanmoins sur ce sujet. Arnaud Boutellier est là. Vous êtes secrétaire régional adjoint Alliance dans les Hauts-de-France.
Oui, bonjour.
Bonjour. Geoffrey nous a appelé tout à l'heure et c'est une affaire du 13 décembre qui nous intéressait puisque deux policiers avaient été pris à partie par je sais pas si c'est une bande de jeunes, je sais pas comment qualifier ce groupuscule d'individus. 8 personnes avaient été interpellées.
Affirmatif, oui. Donc les collègues avaient essayé de procéder à un contrôle suite à un rodéo urbain. Et lors du contrôle, ça s'est un petit peu mal passé. Les individus ont voulu essayer de récupérer l'engin, et c'est à ce moment-là que des violences ont été commis envers les forces de l'ordre.
Il y avait des voies de fait, par exemple, il y avait une ITT prononcée contre ces deux policiers.
Oui, oui, tout à fait. Il y a eu des ITT, et malheureusement, l'un d'eux a été plutôt très choqué par rapport aux faits, parce qu'ils ont quand même essayé de mettre tous les moyens nécessaires pour récupérer l'engin. Donc, ils ont bousculé. Après, évidemment, certains diront que sur les images, nous voyons pas tous les faits, mais ils ont été malgré tout frappés parce que voilà. Il y a eu quand même des blessures légères au niveau des genoux et au niveau des membres supérieurs et inférieurs.
Et puis c'est quand même des policiers, je le rappelle. Bon,
oui,
donc il y a eu 8 personnes interpellées. Combien sont passées en jugement ce vendredi, puisque le jugement était rendu vendredi 22 janvier?
Alors, des derniers éléments que j'ai pu obtenir, 4 personnes sont passées donc au tribunal. Ils ont eu différentes condamnations par rapport aux faits qu'ils leur auraient reprochés.
Et vous trouvez que ces condamnations, alors le maximum, c'est 6 mois de prison ferme, c'est bien cela pour un des agresseurs.
Voilà, ça part de la prison ferme, façon de parler, à 6 mois, du sursis de 9 à 6 mois, et des peines amendes avec suivi de stages de prévention routière pour le dernier individu.
Bon. Donc, personne n'a été relaxé.
Il y a eu apparemment quelques personnes relaxées, mais
s'il n'y avait que 4 personnes jugées, que ces 4, les peines, vous me les donnez, les 4 autres, manifestement, n'ont pas été poursuivies.
Non, non, tout à fait.
Ouais, voilà. Donc, oui, elles n'ont même pas été poursuivies. Nous sommes d'accord, non, sans doute pour faute de preuves ou pour exactement. Des raisons que j'ignore. Bon, et quel sentiment vous avez sur ces peines ?
Écoutez, vous voyez l'actualité d'aujourd'hui. Nous, ce que nous, au niveau du syndicat Alliance, ce qu'on dénonce, c'est que voilà, il y a eu quand même des agressions envers l'autorité. On n'est pas obligé d'apporter des violences à chaque intervention. Hein. 6 mois ferme, je pense que par rapport aux faits, c'est quand même peu. Hein. Je pense que dès l'instant qu'on s'attaque à des forces de l'ordre, c'est quand même une des circonstances aggravantes. Donc on sait sur qui on s'attaque. Voilà, c'est pas la peine elle est maigre par rapport aux faits commis.
Est-ce que le parquet va faire appel? Est-ce que vous avez des renseignements là-dessus?
Alors normalement, oui, apparemment le parquet va faire appel. Mmh. Nous, ce qu'on est un peu aussi étonné par rapport à ces faits, c'est qu'il y a quand même une ministre de l'Intérieur qui s'est quand même déplacée, qui a quand même remis la médaille de la sécurité intérieure aux fonctionnaires blessés. Donc c'est quand même pas, on n'obtient pas cette médaille pour une petite broutille. Par rapport au déplacement et par rapport à la décision de justice, on est un petit peu surpris. Maintenant, on sait très bien que la justice fait son travail. Mais nous, on aimerait aussi que les peines soient proportionnelles aux faits commis.
Ben ça, c'est un bon exemple. Parce que tous ceux qui nous écoutent peuvent se faire leur avis. Ça, c'est un bon exemple. Alors, ce que je n'arrive pas à éclaircir très précisément, c'est les deux policiers avaient été blessés, hein, Arnaud Boutellier. Vous confirmez? Je vous ai dit, est-ce qu'il y avait eu des ITT de prononcés? Vous ne m'avez pas répondu précisément combien de jours ils avaient été arrêtés.
Après, c'est 10 jours.
10 jours. Bon, d'accord. Donc, ils avaient été blessés, violentés, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, voilà, un policier en France qui est blessé, violenté, avec des refus d'obtempérer, qui ne peut pas faire son travail, son agresseur a 6 mois ferme. Après, chacun, voilà, chacun 6 mois ferme, et après, chacun pense ce qu'il en veut.
Exactement.
Est-ce que c'est une manière de protéger la police? Est-ce qu'on doit être plus exemplaire? Est-ce qu'il doit avoir des peines plus symboliques? On parlait même de peine plancher à un moment. C'est intéressant, parce que moi, je passe mon temps ici à dire qu'il faut défendre les policiers. Ce qui est dans un état de droit, il faut défendre les policiers, surtout lorsqu'ils sont agressés de cette manière-là. Donc, effectivement, chacun peut réfléchir en fonction de ce qu'il vient d'écouter. Merci, Monsieur Boutellier.
Merci beaucoup.
Merci à vous. 13h48, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
On va prendre un dernier témoignage de l'agression de Youri, qui est cet adolescent de 15 ans qui est aujourd'hui à Necker, qui irait mieux, qui a pu échanger avec sa mère ce matin, et sa mère donnait des nouvelles rassurantes. Le mot peut-être est un peu fort, mais en tout cas ça semblait aller mieux qu'hier. Bonjour Philippe, vous êtes commerçant, vous habitez Lille.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Votre sentiment?
Bah écoutez, moi j'ai plus de 50 ans, hein, je me souviens de la campagne de Sarkozy en 2007. Il avait fait de la sécurité son thème central de campagne, et c'est grâce à ça qu'il avait été élu. Malheureusement, il n'a pas pu faire grand-chose parce qu'il s'est vite pris une volée de bois vert. Hein, c'était pas politiquement correct ce qu'il proposait. Donc il a reculé. Donc depuis cette époque, ça n'a fait que monter crescendo. Hein. Tout est violence, les black blocs, les tensions entre les communautés, les gilets jaunes, des commissariats qui se font attaquer au mortier, des scènes de guerre, quoi. Hein. Tout ce qui représente l'autorité de l'État est attaqué. Les pompiers, les profs, la police, plus rien n'est respecté. L'État recule parce que c'est la culture de l'excuse. L'État culpabilise. On ne fait pas les choses et ça depuis longtemps. Il y a un recul aussi de l'autorité parentale dans beaucoup de familles.
C'est-à-dire que parfois il n'y en a plus du tout parce que le père parfois n'est pas là, et c'est souvent même des familles monoparentales, c'est ce que nous expliquent les sociologues, ou des pères qui sont très absents. Je crois que c'est Aldo Nauri qui explique que c'est l'absence de père qui explique parfois dans ces quartiers-là la grande difficulté de ces enfants.
Oui, mais aussi combien dans combien de familles, par exemple, si un prof a le malheur de faire une remarque à un élève, l'élève rentre chez lui, le dit à ses parents, et ses parents vont agresser le professeur. Ça, c'est pas de la fiction. Il y a aussi les tensions entre les communautés qui sont exacerbées par le terrorisme, les réseaux sociaux. Et donc tout ça fait un cocktail détonnant qui fait que on ne contrôle plus rien.
Vous-même, vous avez été, par exemple, vous êtes commerçant, vous avez été victime ou d'agression ou de, ou vous avez,
oui. Il y a quelques années, j'étais sur Amiens. Il y a une bande qui est descendue, qu'on appelle un quartier le Pigeonnier. Ils ont pris toutes les chaises de terrasse, ils nous les ont lancées dans les vitrines. Donc voilà, oui, c'était une agression un peu marquante. On a fait appel aux forces de l'ordre pas mal de fois quand on fait ce métier-là. Faut y être prêt. Je me souviens aussi d'un épisode juste avant l'élection de Nicolas Sarkozy, des tensions au Pigeonnier, quartier chaud de la ville. Je connaissais quelqu'un qui travaillait à la BAC. Il est venu nous dire qu'il était écœuré parce qu'il avait eu ordre de ne rien faire parce qu'il ne fallait pas faire de vagues avant les élections. Donc, ça, c'est un problème récurrent. Et je pense que l'État est grandement responsable, la justice est grandement responsable. Et je pense que les Français, ils en ont marre. Ils en ont marre. Il y a des succès d'audience de certaines chaînes d'infos qui osent dire les choses, si vous voyez ce que je veux dire, qui montrent que la majorité, elle est silencieuse, mais que ça va être un enjeu principal de la future campagne présidentielle, je pense, parce que là, ça...
C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de thèmes principaux pour la prochaine présidentielle, parce que entre le confinement, la situation économique, la situation pandémique et la situation sécuritaire, ça va faire des thèmes assez lourds, cher Philippe. Merci en tout cas, merci. On a beaucoup parlé depuis 13 heures de cette société violente, bien sûr, et des images que vous avez vu sans doute, l'image de Youri. On va parler maintenant du reconfinement qu'on annonce, que certains en tout cas annoncent, puisque l'Élysée pour le moment dit que rien n'est décidé, mais vous avez sans doute entendu Jean-François Delfraissy, vous avez peut-être écouté également Karine Lacombe qui était avec Benjamin Sportouche hier au grand jury, et des médecins qui réclament ce confinement avec... le variant anglais qui vient changer la donne. On va en parler après la pause et après le flash d'Olivier Bois. Tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On est un poil en avance, il est 13h59.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Christiane Pourou, bonjour.
Bonjour.
Pour ou contre le reconfinement ?
Pour et contre.
Ah bah
pour,
écoutez...
Pour, parce qu'il faut finir avec la situation. Et donc j'aimerais bien en parler avec vous après.
Eh bien vous allez en parler après le flash d'Olivier Bois.
Des décisions seront prises justement. Des décisions seront prises cette semaine. La phrase a été prononcée ce matin par le Premier ministre Jean Castex. C'est mercredi lors d'un conseil de défense qu'on s'attend à ce que la question d'un troisième confinement soit traitée. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on continue à répéter que rien n'est acté. Le variant anglais représenterait 7 à 9% de l'épidémie actuellement en France. C'est le critère qui inquiète le plus et qui fait dire... hier au président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy qu'un reconfinement est probable. Le MEDEF et les chambres de commerce demandent en tout cas, même en cas de reconfinement, à laisser les magasins ouverts pour atténuer les pertes de chiffre d'affaires engagées en 2020. L'Organisation internationale du travail indique ce midi d'ailleurs que l'année dernière la pandémie a entraîné dans le monde la perte de l'équivalent de 255 millions d'emplois. Le laboratoire Pasteur interrompt le travail sur son vaccin, les résultats ne sont pas assez efficaces. Nouveau coup dur pour les Français après les retards annoncés par le groupe Sanofi pour son propre vaccin. Le quintet, c'était à Cannes-sur-Mer, l'arrivée provisoire à l'instant, le 14, le 3, le 15, le 5, hélas. Le temps demain, il fera beau sur tout l'est du pays, même si le ciel sera un peu voilé dans le nord et dans le sud-ouest. Ce sera nuageux sur la Bretagne et les pays de la Loire. Et les températures, ce sera frais. Hein. Il fera moins 4 à Aurillac, entre moins 1 et 2 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 7 degrés à Perpignan.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Christiane, donc, qui est agent hospitalière, pourquoi pensez-vous qu'il faille reconfiner ?
Je pense qu'il faut reconfiner parce que je pense qu'il faut en finir.
Ah oui,
mais s'il faut en passer par là,
mais comment comment vous savez qu'on en finit si on se reconfine? Les deux premiers, je veux pas dire n'ont servi à rien, ce serait excessif. Mais si vous reconfinez une troisième fois, on peut reconfiner une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois. Hein.
Vous avez tout à fait raison. C'est l'après-confinement qu'on n'arrive pas à bien préparer.
Bah, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait faire? Rester confiné tout le temps?
Non. Moi, le confinement pour moi est pénible. C'est pour ça que je vous disais pour compte, parce que je ne vois plus mes petits enfants. Mais je suis peut-être bête, mais j'ai un espoir. J'ai toujours l'espoir que les gens vont grandir et appliquer consciencieusement ce qu'on leur demande.
Mais ils appliquent, Christiane, et ça ne sert à rien. Moi, partout où je vais, les gens portent un masque. Partout où je vais, les gens respectent les gestes barrières. Mais tu t'aperçois que rien ne sert à rien. Et dans tous les pays du monde, c'est la même chose.
Oui, les gens portent leur masque. Les gens font très attention. Moi, je sais que j'ai souffert énormément des deux procédements premier confinement parce que j'adore aller musarder dans les librairies. Je ne voyais plus mes petits-enfants. Mais par contre, il y a des gens qui mettent leur masque, mais ils sont collés l'un à l'autre. Ils se tiennent. Les amoureux, je les comprends, ils se tiennent par la main.
Les amoureux, on peut pas les empêcher. Oui, les amoureux, quand ils sont dehors avec leur masque, on peut imaginer qu'ils l'enlèvent quand ils sont chez eux.
Voilà. Mais franchement, moi, je crois que plus personne ne sait à quel saint se vouer pour que ça s'arrête.
Mais ça ne s'arrêtera pas.
Voilà,
ce virus, il est là et ça ne s'arrêtera pas puisque la vaccination peut-être l'arrêtera, mais le tempérera. Mais on voit bien, et en écoutant Jean-François Delfraissy hier, que les variants, on n'est même pas certain que les vaccins répondent aux variants. C'est pour ça qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions, accepter peut-être de vivre avec, en prenant des précautions. Parce que si tous les trois mois, vous êtes reconfiné, ça va être compliqué.
Donc, c'est ce que je disais au jeune homme que j'ai eu avant vous. J'en ai parlé hier avec ma fille, que justement, du vaccin, parce qu'elle n'est pas tout à fait pour. Je lui ai dit, mais on va être obligé de vivre avec un confinement, avec peut-être un vaccin qui reviendra peut-être tous les ans, tous les 18 mois, tous les 24 mois. Il va falloir qu'on vive avec. Si là, on nous reconfine, malheureusement, il faudra bien appliquer, ne pas arriver à des extrémités comme... J'ai été choquée quand j'ai vu les images aux Pays-Bas.
Mais oui, mais le niveau d'acceptabilité, vous savez, il y a des gens qui en ont marre. Hein.
Oui.
Et notamment, moi je le dis sans arrêt à ce micro, ceux qui ne sont pas payés en fin de mois. Parce
voilà,
que ceux
ça.
Qui donnent des leçons, mais qui reçoivent leur salaire, ceux-là, ce n'est pas les mêmes que les commerçants parfois, les extras dans les stations de ski, les restaurateurs, les gens de la culture qui n'ont plus rien depuis un an. Parce que ce sont des indépendants, ils sont à zéro parfois, à zéro. Alors évidemment, ceux-là, ils vivent la pandémie d'une manière différente de ceux qui sont bien au chaud et avec leur salaire qui tombe à la fin du mois. C'est le cas, disons-le d'ailleurs, des journalistes. Hein. Je n'exclus pas de ça, c'est plus facile pour nous.
Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne vois pas ce que ça a pu apporter la fermeture. Surtout que dans les restaurants, les dispositions étaient prises correctement pour que les clients puissent s'asseoir et puis se bouger ou même ne pas bouger.
Merci Christiane en tout cas de ce témoignage. Jean-Marc est là sur le confinement, il est chef d'entreprise. Bonjour, vous habitez Vannes et vous êtes chef d'entreprise.
Bonjour.
Dans quel secteur ?
Dans l'immobilier.
Bon, et comment ça se passe actuellement ?
Bah, ça se passe que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nous, de notre côté, on a vécu déjà les 13 élections municipales, donc avec des maires qui bougent plus beaucoup pour se faire réélire. Et puis ensuite, on a un premier confinement, alors que nous, notre activité, elle est beaucoup plus au printemps. Et voilà, donc nous, ça a été une année blanche, hein, très clairement. Mais donc c'est extrêmement difficile de tenir les emplois, extrêmement difficile de négocier avec les partenaires parce que plus personne ne veut prendre de décisions, etc. Et voilà, enfin, sous prétexte de vouloir sauver des vies, parce que finalement on n'écoute que des médecins et des scientifiques. Alors on sauve des vies, ça c'est super, hein, c'est comme ça, ils ont fait un serment, ils veulent sauver des vies. Mais à un moment donné, il faut peut-être aussi accepter la mort, il faut peut-être accepter aussi le fait qu'on vive avec, et puis voilà, et advienne que pourra. Et puis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, à un moment donné, je trouve que c'est trop grave en fait. C'est-à-dire que là, vous avez, on veut sauver je ne sais pas combien de pourcentage de la population, et on va se retrouver avec des séquelles absolument terribles dans les entreprises. Parce que là, vous parlez des... Tout à l'heure, dans le journal, on parlait de 200 et quelques millions d'emplois qui ont été supprimés. Mais vous allez voir, juste après, une fois qu'il n'y aura plus d'aide, une fois qu'on sera plus sous perf, toutes ces boîtes-là, le nombre qui vont déposer le bilan, mais ça va être catastrophique.
Mais c'est quoi pour vous la politique alternative ?
À la politique alternative, c'est à un moment donné, il faut savoir vivre avec, il faut arrêter de confiner les gens, il faut laisser les entreprises tourner, il faut laisser les commerçants tourner. Voilà, il n'y a pas d'autre choix. Et puis après, vous vaccinez en masse. Je veux dire, quand ma mère, quand ils étaient petits, il y avait la variole. Ils ne demandaient pas l'avis des gens de savoir s'il fallait vacciner ou pas. Ils les prenaient l'un derrière l'autre à l'école, ils les piquaient, terminé. Tout le monde était. Et il n'y a plus de variole.
Vous voyez,
c'est qu'à un moment donné. Non, mais non pas. Je veux pas paraître.
Vaccin obligatoire.
Dictature, mais vaccin obligatoire, point, c'est tout. Il n'y a pas le choix. Et puis pour le reste, laissons les entreprises fonctionner, laissez-nous vivre. Vous vous rendez pas compte, on va crever. Enfin, on va crever. Il y a combien de chefs d'entreprise qui se suicident par semaine ? On n'en parle pas ça, mais je peux vous assurer qu'il y a un sacré paquet de chefs d'entreprise qui se suicident parce qu'ils n'y arriveront pas ou parce qu'ils n'y arrivent plus.
Merci Jean-Marc.
Les chefs d'entreprise, c'est pas uniquement pour nous, hein, c'est aussi on a des salariés, on a des familles. Enfin, vous voyez, c'est pas que égoïste, hein, c'est vraiment un peu plus large quoi que ça. Voilà.
Merci Jean-Marc.
Merci de m'avoir donné la parole.
Merci à vous. Greg, je vais vous lire quelque chose, vous allez me dire qui a dit ça. Les spectacles sont interdits. Les magasins et les cafés resteront ouverts le moins longtemps possible afin de réduire la propagation. Il n'y aura plus de réunions publiques, les groupes de plus de 3 personnes seront dispersés, il est également interdit de flâner. Est-ce que vous savez de quoi c'est extrait ? C'est introuvable, hein, de toute façon, je vais vous le dire. C'est extrait d'une pièce d'Eugène Ionesco, Jeu de massacre, monté à Paris en 1970. Incroyable. C'est pas du tout les dernières annonces de Jean Castex. Non, non, c'est une pièce de Ionesco. Elle est citée dans le livre de Christophe Barbier sur la pandémie qui est passée d'ailleurs. Hein, Christophe Barbier qui était sur RTL, vous l'avez peut-être écouté l'autre jour chez Alba Ventura. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jean Castex a dit qu'il y aurait des décisions cette semaine. Et rien n'est décidé, c'est en tout cas le mot d'ordre de l'Élysée. Je continuais de textoter, figurez-vous, avec évidemment des informations qu'on peut glaner parfois auprès de certains conseillers de l'Élysée qui nous confirment que rien n'est décidé à 14h11 aujourd'hui. Et ce sera le Conseil de défense présidé par Emmanuel Macron qui donnera ces prochaines heures. Nous sommes avec Christophe, bonjour.
Bonjour Monsieur Pro. Bah, écoutez, d'abord, je vous remercie de donner la parole dans vos émissions, dans ces news de ce RTL à des gens qui n'ont pas que la pensée unique. Donc moi, je précise, je suis kiné, j'ai 57 ans, donc je suis pas loin des gens à risque, et j'ai un métier qui n'est pas du tout entamé par le Covid. Donc c'est une colère que j'ai pour les autres, pour mes enfants. Et moi, à la vue de ce troisième confinement, ce qui m'étonne vraiment, c'est deux mots de français que les politiques utilisent très mal quand on dit qu'on va confiner les personnes à risque. Les deux mots qui reviennent, stigmatiser, discriminer. Donc moi, j'ai regardé le dictionnaire. Discriminer, c'est le fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal. Je vois pas ce qu'il y a de traiter plus mal que de dire à une personne, on va vous mettre de côté, c'est pour votre bien, on va même vous indemniser s'il le faut. Et après, stigmatiser, c'est dénoncer, critiquer publiquement quelqu'un qu'on juge condamnable. Je vois pas comment on stigmatise des gens quand on leur dit juste, on va essayer de vous protéger. On pourrait très bien pas isoler, mais protéger les gens à risque, et par exemple, ouvrir les restaurants une fois par semaine, comme on faisait avant quand il y avait une salle fumeur-non-fumeur. Bah, par exemple, dites aux restaurateurs d'ouvrir tous leurs restaurants chaque vendredi pour les personnes à risque, ils vont être très contentes. Ce qui veut dire que les personnes à risque, on ne les met pas de côté. On pourrait faire la même chose avec des transports.
Vous voulez ouvrir les restaurants le vendredi pour les personnes à risque, c'est ça?
Non, mais par exemple, ce que je veux dire, non, mais monsieur Pro, pour ne pas leur dire qu'on les met de côté. Parce que
j'entends bien, mais c'est vrai que c'est.
Non, mais on peut trouver le cinéma, mettre des séances exprès pour les personnes à risque. Comme
c'est
ça, on
compliqué
pas dire,
parce que ça, tous ces, comment dire, toutes ces idées-là souvent se heurtent au droit. Et c'est ça qui est compliqué.
Vous croyez qu'au niveau de droit, M. Pro, on est dans un état de droit quand on nous confine tous chez nous et quand on nous interdit de travailler? Pour moi, on est dans une dictature sanitaire. Je suis dans le milieu médical, M. Pro. Je vois bien les gens qui sont en train de mourir de tristesse en voyant...
Mais j'entends ce que vous dites, puisque je pense qu'on pourrait faire autrement. Donc, notamment sur le théâtre, sur le cinéma, pourquoi pas sur les restaurants, etc.
La Suède, M. Pro, mais regardez la Suède. Moi, j'ai regardé les chiffres. Ils ont eu 10% de morts en plus. Neuf comme nous, en vivant normalement, en faisant confiance à l'être humain. Mais, tout le monde parle de la Suède, mais personne ne regarde les chiffres.
Mais j'entends, mais si vous arrivez sur ce débat et que vous dites que vous êtes prêt à accepter 10% de morts en plus, nous on est donc à 70 000, je crois, en France, c'est ça. Donc c'est 7 000 personnes en plus. Et à ce moment-là, vous vous heurtez à des gens qui vous diront une mort en plus, combat est valable pour une mort en plus.
Vous citez les propos de M. Barbier, qui est passé chez vous, mais quand on lit son livre, c'est exactement ça. On n'accepte plus la mort. Eh bien, on va flinguer nos jeunes. Moi, j'ai mal pour nos jeunes. On va flinguer la jeunesse, donc on va sacrifier la jeunesse pour les personnes âgées. Dans une réunion de famille, vous demandez à une grand-mère, est-ce que tu crois que je dois sacrifier mon petit mamie? Mais toute personne âgée va vous dire, mais enfin, vous avez déjà vu un bateau qui coule où on laisse les vieilles personnes dedans et on jette les femmes et les enfants d'abord? Je suis du milieu médical, monsieur Pro, c'est du n'importe quoi ce qu'on fait. Il y a un bouquin qui est sorti, cette psychose qui dirige le monde, mais c'est incroyable.
De monsieur Bonamy, je l'ai reçu, effectivement. Alors, si la tyrannie du médical s'est affirmée, ça c'est Christophe Barbier qui écrit cela, c'est parce que le politique a démissionné, le politique se soumet à ce que disent les médecins, ajoute-t-il. Et il dit également, si les vies que nous avons sauvées en France aujourd'hui sont plus nombreuses que les vies que nous allons détruire dans le futur, il se demande si les vies que nous avons sauvées en France aujourd'hui sont plus nombreuses que les vies que nous allons détruire dans le futur.
Monsieur Pro, il faut peut-être prendre un terme aussi quand on dit sauver des vies. Qu'est-ce qu'on appelle sauver des vies? J'adore les personnes âgées, je les soigne. Mais pour permettre à une grand-mère de mourir à 85 ans au lieu de 83, c'est pas sauver une vie. C'est prolonger.
Non, mais c'est des discussions très difficiles, ça. Parce qu'effectivement, en fait, on ne peut pas. C'est très compliqué. Mais là où je vous rejoins depuis le départ,
c'est une question philosophique.
Mais moi, je pense qu'il faut, il fallait effectivement, quoi. En tout cas, on peut imaginer que les personnes fragiles soient préservées, soient confinées, etc. Mais
il ne faut pas empêcher les autres de vivre. Pour autant, là, on dit, moi, j'ai qu'un.
Non, mais c'est la première fois que.
C'est disproportionné. Tout ce qu'on fait, mais qu'est-ce qui se passera quand on aura une épidémie qui tuera quelques jeunes? La grippe normale, elle tue 15 ados. Faudrait le rappeler aux parents, ça quand même, ils mettraient tous leurs enfants à l'école. La grippe normale tue entre 10 et 15 ados, et c'est des chiffres sérieux que je vous donne.
Le problème, c'est que vous avez des scientifiques, des médecins, entre guillemets, qui font pression. Je veux dire, quoi, qui font pression? En tout cas, Jean-François Delfraissy hier, Karine Lacombe aujourd'hui, hier également, pardon.
Bon. Monsieur Pro, c'est à nous de résister. Moi, j'ai suivi le traitement du docteur Raoult, j'ai eu le Covid, mais je respirais plus sur mon lit. Pourquoi on l'a pas fait à d'autres?
Robert Sebag disait que ça marchait pas. Ça, moi, je veux pas rentrer là-dedans. Écoutez, en revanche, sur l'hydroxychloroquine.
Je vais venir vous expliquer ça sur le plateau. Patients, ils m'entendaient, ils ont cru que j'allais mourir tellement je respirais pas. Il y a une disproportion, monsieur. On vit dans un monde de fous, et moi, je suis du milieu médical et j'adore mes petits vieux, que je soigne. Et vous verrez, mon cabinet, je prends toutes les précautions. Mais on peut quand même pas sacrifier toute une génération et vivre comme des peureux enfermés dans un tunnel.
Écoutez, en tout cas, ce débat devrait être tranché par l'opinion. Et depuis le début de la crise, il ne l'est pas. Voilà. Ça, on peut se mettre d'accord là-dessus.
Des gens comme vous et moi, quand on parle comme ça, on est traité de trumpisme, de populisme, de...
Non, on peut avancer des arguments. Il n'est pas trumpiste ni populiste, Christophe Barbier. Non, on peut avancer, c'est un vrai choix de société. On a le droit d'avoir cette discussion, bien sûr.
Mais on est peu entendu et on est tout de suite traité de...
Emmanuel Macron ne veut pas reconfiner. il veut pas reconfiner. Donc est-ce qu'il va céder à cette pression de Jean-François Delfraissy, qui est le président du conseil scientifique?
Mais il faut, bon, il faut attendre mercredi. Monsieur Pro, il faut que des voix continuent à s'élever, différentes de la pensée unique.
Et il y en a quand même. On n'est pas les seuls au monde. Et puis nous, on essaie d'être nuancés.
Je vous remercie de nous laisser cette parole.
Bah écoutez, c'est les auditeurs qui ont la parole. C'est le principe de l'émission. Donc, mais restez peut-être, Christophe, parce que je vais essayer de trouver quelqu'un qui va vous contredire. Alors, on va marquer une dernière pause, une avant-dernière pause, avec Monsieur Caranoni. Qui est toujours là, toujours présent. Et vous êtes sans Damien Béchiot aujourd'hui.
Oui, il avait besoin de se reposer un petit peu, je crois.
Et il se reposait, mais il n'y a que vous qui êtes aux manettes.
Ben oui, là, je... Il vous manque ? Quelqu'un vous manque ? Un seul être vous manque ?
Un seul être.
Je voulais enlever de la bouche.
Et tout est dépeuplé, c'est bien cela. Ah, quand vous citez comme ça cet auteur romantique du 19e. 14h17, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est lundi.
Oh. Vous avez remis la musique ce lundi.
Bah oui, je me disais que ça pouvait donner un petit peu de sourire peut-être.
C'est lundi. Quand il a roulé. C'est lundi.
Et ça marche.
Elle est géniale cette chanson. Jesse Garon. On réinvente parfois, on redonne une chance à des chansons qu'on a oubliées. Cet été, peut-être qu'on pourrait écouter 28 degrés à l'ombre, si vous êtes
oui.
sage.
Mais parfois, uniquement, on n'aurait peut-être pas le faire.
Jean-Pierre, pour le dernier témoignage sur le confinement, qui habite Beauvais. Bonjour.
Alors, bonjour Pascal, bonjour à toute l'équipe. Merci de prendre mon témoignage. Et Pascal, j'ai un compliment à te faire. Je sais qu'actuellement, tu as des interventions qui sont assez pertinentes et qui commencent à plaire un petit peu à ce qu'on appellerait la population en général.
C'était vous pensez qu'il faut que je me présente à une élection, que je suis mûr, Jean-Pierre, parce que je réfléchis à la présidentielle. Vous pensez que c'est possible ou pas? Vous pensez que j'ai une chance?
Oh ben, vous auriez peut-être autant de chance que certains.
Non, chacun à sa place, chacun à sa place.
Voilà. Alors ben, moi, je voudrais abonder aussi parce que j'ai écouté le témoignage attentivement de l'auditeur.
Pourquoi? Vous êtes dans une église, là, il y a de l'écho. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Jean-Pierre? Pourquoi on entend...
C'est mieux. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est mieux comme ça?
Oui, alors, c'est mieux.
Comme ça. Alors, je disais, j'ai écouté attentivement l'auditeur précédent. Effectivement, qui est dans le milieu médical, je peux qu'abonder. Et je vais vous dire pourquoi, moi, je suis contre le reconfinement. Alors, par contre, attention, quand je dis je suis contre le reconfinement, je suis pour les mesures de distanciation, les mesures qu'on prend de précaution par rapport au Covid. Parce que oui, effectivement, le Covid, il y a des morts. Oui, effectivement, il y a des gens qui sont hospitalisés, qui sont malades, comme dans toute autre maladie qui ont tendance à être oubliées aujourd'hui, malheureusement. Mais effectivement, il faut pouvoir les soigner. Maintenant, on a un gouvernement qui hésite, qui balbutie. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une société où on nous prive de jour le jour de notre liberté. Donc moi, c'est clair, c'est net, s'il continue dans cette optique-là, le gouvernement, là, il n'a pas encore pris la décision, mais s'il prenait cette décision-là, moi, je peux vous affirmer que... je vais vous affirmer, et mes propos ne tiennent qu'à moi, je peux vous affirmer que le 18 juin, hein, le manif des Gilets jaunes du 18 juin 2018, ce qui va se produire, hein, aujourd'hui, ça sera rien ce qui s'est passé le 18 juin 2018. Les gens sont à bout. Les gens ont besoin de retrouver de la liberté. Les gens, il faut faire... Le gouvernement ne fait pas assez confiance.
On va attendre mercredi alors. On va attendre mercredi, Jean-Pierre. Et comme on attend le débrief de Laurent Tessier, moi ce que je vous propose peut-être c'est de nous rappeler demain pour continuer la discussion parce que vous avez eu assez peu de temps, même alors, si on a compris le message. Et je vous dis à demain, Jean-Pierre. Il est 14h23, c'est le débrief, comme tous les jours.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Aujourd'hui, c'est joie bonheur. Nous sommes tous en pleine forme et nous vous avez vendu du rêve ce lundi. Hein.
Est-ce que vous redoutez en tout cas un reconfinement? L'autre sujet important du jour, c'est la société est-elle de plus en plus violente? Est-ce que vous vous sentez en sécurité?
Bon lundi. lundi à tous. Pendant une heure, vous nous avez appelé pour réagir à cette vidéo qui montre un adolescent de 15 ans, Yuri, violemment passé à tabac le 15 janvier à Paris. Christophe est policier de la BAC, il nous a appelé au 3210.
C'est très jeune, on est entre des, bon, non, des jeunes qu'entre 13, 15 et 16 ans, par groupe de 10. Donc effectivement, quand vous êtes un groupe de 10, vous êtes une meute. Hein. Vous avez très peu de gens de 20-25 ans dans ces bandes-là. Voilà, il n'y a aucune limite, il n'y a plus aucune limite.
Et si en ce moment, vous rêvez de vacances, de voyages, comptez sur nous dans l'émission.
Voyage, voyage.
Une envie, Pascal, en ce moment ?
Pourquoi pas d'aller faire un tour au Bénin. Thierry, vous nous avez donné envie, d'une certaine manière, d'aller visiter.
Et je sens que vous avez envie de partir avec notre réalisateur, Greg Caradoni.
Je ne sais pas, Grégory, si vous êtes déjà allé au Bénin, ce qui n'est pas mon cas.
Non, je n'y suis jamais allé, mais la France des années 60, ça vous donne envie d'aller au Bénin, forcément, Pascal, vous, non ?
Je vous remercie, vous êtes aimable dès ce lundi. J'ai pas d'amis comme toi.
Ah, quelle bonne relation entre vous. Les auditeurs ont la parole, c'est aussi une émission où l'on parle d'histoire.
À la fin du 19e siècle, vous sortiez dans les rues de Paris, vous pouviez vous faire tuer, mais effectivement, ce n'était pas filmé.
Pascal Braud dit Stéphane Bern dans l'intimité. Vous pouvez faire également les débats dans l'émission.
Pour ou contre le reconfinement ?
Pour et contre.
Ah bah
pour.
Écoutez.
Voilà, pour et contre, comme ça au moins on a les deux arguments. Et par moment, dans les auditeurs ont la parole, il y a, oui, des fake news.
C'est lundi.
Dans mon lit.
C'est lundi.
Dans
c'est
mon
Jesse
lit.
Jesse Garon.
Exactement.
C'est lundi dans mon lit. Maloka. C'est parce que, vous savez pourquoi j'ai proposé cette chanson ?
Non, dites-moi.
Parce que tout à l'heure, Laurent Tessier chantait ça dans les couloirs.
Fake news, fake news.
Quelle honte ! C'est vous, Pascal Pro, qui avez chanté cette chanson en permanence dans le bureau. Allez, l'Académie nationale de médecine, on en a parlé, recommande d'éviter de dialoguer, de téléphoner dans les transports en commun. Et justement, nous sommes avec Edouard, qui est dans le métro à Paris. Alors Edouard, allez-vous vous taire ?
J'ai l'impression qu'il suit les recommandations de l'Académie de médecine. Voilà.
Bravo Edouard, bravo Edouard.
C'est le meilleur direct de la radio.
Le direct le plus intense.
C'est fini ?
Allez, le débrief pour aujourd'hui, bah, c'est terminé. Et Pascal, pour que cette chronique dure des semaines, des mois, chanson de circonstance.
Je salue Pierre-Louis qui est dans la régie, Siradouche, Olivier et Evan qui sont au standard. Vous les appelez tous les jours au 3210 et c'est eux qui...
Et ils vous répondent.
D'abord, ils répondent et c'est eux qui filtrent. Ils ont un premier travail de journaliste, un regard éditorial sur vos témoignages. J'aperçois également Flavie Flamand, la belle Flavie Flamand qui est là et qui va prendre la suite des programmes de RTL.
Madame, monsieur, bonsoir.
À toute suite pour la suite des programmes.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.